se dit que dans ces endroits fabuleux, ben, ont vécu les cagots, qui ont été ces gens qui, pendant des siècles, ont été totalement exclus de la population française, puisque jusqu'à une certaine époque, c'est su par très peu de gens, ils devaient porter une patte d'oie cousue sur leurs habits.
Je suis avec Philippe Nonni. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Qui vient d'écrire Les pierres de mémoire aux éditions Paul et Mike. L'histoire de ce livre un peu particulière.
Alors, c'est l'histoire de livre un peu particulière qui se base sur un fait réel, qui est le fait des cagots, qui pendant des siècles, effectivement, ont été des gens dans les Hautes-Pyrénées, mais ailleurs aussi, hein. C'est pas qu'une réalité pyrénéenne, qui ont été totalement donc exclus. Et je suis parti en fait d'un héros, d'un personnage donc qui est petit, qu'on appelle le cagot, qui s'appelle Henri, qui est destiné à reprendre l'exploitation familiale donc de ses parents, que ses grands-parents ont eu, que ses arrière-grands-parents ont eu. Il y a un destin qui est tout tracé. C'est sans compter sur son amour des livres et sur le passage un jour fortuit d'une artiste peintre qui le croise et qui va lui communiquer un étrange virus, en fait, qui n'est autre que le virus de la création. Voilà.
Alors ce virus de la création, c'est lui qui vous a pris ?
Moi, il me prend au quotidien depuis déjà bien longtemps. Donc c'est pas du tout un roman autobiographique, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui écrit tout le temps. Il y a à peu près qu'une semaine par an où je me force à ne pas écrire, à partir en vacances sans ordi ni rien. Mais malgré tout, je continue à me réveiller la nuit, à avoir des idées. Par moments, je suis en écriture presque automatique, c'est-à-dire j'entends l'histoire dans ma tête. Je vois les personnages. Et en fait, moi, je dis souvent, je suis un cinéaste des mots. C'est-à-dire que j'ai une caméra à l'épaule, au lieu d'avoir une caméra avec des images, j'ai une caméra avec des mots à l'intérieur. Et ces mots vont décrire, en fait, ce que je vois mes personnages, ils sont vivants. Et donc, je suis un cinéaste des mots, c'est-à-dire que je les dirige. Voilà. Et j'aime bien ce mot cinéaste des mots qui accole deux images, deux termes qui, a priori, sont totalement incompatibles, mais qui, en fait, pour moi, le sont parfaitement. C'est-à-dire qu'une écriture peut être tout à fait visuelle.
Et donc, une description très, très pointue du milieu agricole pyrénéen.
Voilà. Alors, la description agricole qui est pointue, bon, j'ai pas trop de mal dans le sens où moi je suis conseiller en prévention des risques professionnels dans le cadre de mon boulot. Donc au quotidien, depuis déjà bien des années, bientôt 20 ans, je me balade dans les exploitations, je travaille dans les exploitations agricoles. Donc c'est vrai que cette histoire notamment de succession dont je parle avec toutes les générations précédentes, le poids des générations précédentes qui incite à reprendre l'exploitation familiale, je l'ai vécu dans pas mal d'exploitations. Quand je dis je l'ai vécu, je l'ai vu. Je l'ai entendu, j'ai vu les réflexions, et tout ça a nourri la construction de ce personnage, hein, donc Henri. Et en fait, ce croisement s'est fait, en fait avec une balade à VTT un jour, où à Montgaillard, pas très loin d'ici, je suis tombé sur la rue des Cagots. Voilà. Et je ne savais pas, comme beaucoup d'ailleurs de Pyrénéens, j'ignorais ce qu'étaient les Cagots. Donc en rentrant chez moi, première chose, j'étais sur un moteur de recherche pour chercher Cagots, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal d'écrire une histoire là-dessus. Voilà, c'est parti de là, de cette connaissance des exploitations agricoles qui est pointue, mais aussi de cette volonté de découvrir un peu cette histoire pyrénéenne des cagots. Quand je dis pyrénéenne, elle est pyrénéenne, mais il y en a eu partout en France, hein, des cagots, puisqu'ils ont représenté, dans les différentes estimations, on pense qu'ils ont représenté jusqu'à 10% de la population. Je dis ils ont représenté, je le mets au passé composé exprès, puisqu'aujourd'hui, ils ont totalement disparu. Voilà. On trouve des descendants de cagots, mais on ne trouve plus de cagots aujourd'hui dans la population française au niveau national. Voilà.
Et donc, en fait, c'est pas votre premier roman, mais par contre, c'est le premier qui a cette forme.
Alors, c'est le premier qui a cette forme, c'est le premier roman pyrénéen que j'écris, c'est le premier qui a cette forme également. Alors, sur la forme onirique, en tant que telle, quand je dis onirique, c'est le rêve, hein, c'est pas le seul. Sur la forme d'un conte poétique, puisque c'est un conte poétique, c'est la première fois, effectivement, que je le faisais, mais c'est vrai que les Pyrénées se prêtent très bien à un conte poétique, parce que les paysages sont tellement beaux ici, que très franchement, on n'a aucun de mal à... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai aucun mal à les écrire, quoi. Hein, la question que vous posiez à l'instant en disant, bon, il y a une description des exploitations agricoles. Les exploitations agricoles se situent ici dans un milieu qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Moi, j'ai la zone de montagne, notamment, pour les exploitations agricoles. Donc, je vais dans la vallée du Louron, la vallée de Bagnères, la vallée d'Or, la vallée de Luz. C'est vrai qu'on n'a plus d'envie, c'est d'écrire, quoi. Parce que c'est des endroits qui sont assez fabuleux. Et on se dit que dans ces endroits fabuleux, ben, ont vécu les cagots, qui ont été ces gens qui, pendant des siècles, ont été totalement exclus de la population française, puisque jusqu'à une certaine époque, c'est su par très peu de gens, ils devaient porter une patte d'oie cousue sur leurs habits, un peu comme les Juifs il y a une soixantaine d'années de ça, porter une patte d'oie pour être distingués des autres. Ils vivaient en communauté à part. Et on retrouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, sur les Hautes-Pyrénées, des stigmates hein, très visibles de cette histoire, puisque l'église de Saint-Savin, par exemple, comprend deux entrées, une entrée pour les gens, entre guillemets, hein, je le mets entre guillemets, on ne les voit pas à la radio, mais j'espère qu'on va les entendre, une entrée, entre guillemets, pour les gens normaux, et une entrée pour les cagots. Et à ces deux entrées, deux bénitiers. Un bénitier pour les cagots, et un bénitier pour les gens, je le mets à nouveau, j'espère qu'on entendra les guillemets, un bénitier pour les gens dits normaux. Voilà. On le retrouve aussi à Notre-Dame de Roumet, à Ciotat. Voilà. Et on ne les mélangeait pas à l'époque. Pourquoi ? Parce que les cagots étaient suspectés d'être porteurs de la lèpre. Et donc, quand ils communiaient, notamment, le prêtre leur tendait l'hostie au bout d'une cuillère en bois. Et c'est vrai que c'est un fait qui était méconnu, que moi je ne connaissais pas du tout, que je n'ai jamais appris nulle part. Et j'ai constaté, en fait, en discutant avec beaucoup de Pyrénéens, y compris avec des vieux Pyrénéens, que certains connaissent l'histoire des cagots et d'autres ne connaissent pas du tout, n'en ont jamais entendu parler. Ne connaissaient même pas le terme.
Donc vous êtes quelqu'un d'engagé dans la vie ? Vous ne savez pas faire les choses à moitié ?
Non, voilà, oui, c'est vrai, oui, j'aime bien faire les choses à fond, parce que je trouve que la vie mérite. La vie est si tellement belle qu'elle mérite d'être vécue avec passion. Voilà.
Donc dans votre travail, on le retrouve aussi, un engagement ?
Oui. Puis bon, j'ai la chance de faire un métier formidable. Moi, c'est vrai que conseiller en prévention des risques professionnels, c'est un métier absolument extraordinaire. On est là pour prévenir les accidents du travail, on est là pour quelque part sauver des vies, on est là pour prévenir des maladies professionnelles. Je trouve que c'est un métier qui a du sens, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de remettre du sens dans les actions que l'on met en place. Et ce sens, je peux aussi le faire en tant que romancier, dans ce que j'écris. Et je peux aussi le faire, puisque je suis également actionnaire d'une maison d'édition qui est basée à Paris, je peux aussi le faire dans le cadre, effectivement, des manuscrits que l'on sélectionne et qui ont aussi du sens. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez d'autre comme passion dans la vie ? Ça vous laisse des places pour autre chose ?
La famille, ma famille, ma femme, nos enfants, nos deux enfants, donc Chloé et Ulysse, le VTT, j'aime beaucoup faire du VTT, la marche à pied, mon jardin chez moi, enfin ma maison, mon jardin, mon environnement, et puis la passion d'écouter la nature. L'été, j'adore me baigner dans l'Adour, chez moi, et puis après m'asseoir au bord de l'Adour et regarder. Regarder comment la vie est belle. Voilà.
Et comment ça se fait que ça soit le premier roman où vous écriviez sur cette région que vous semblez adorer ?
Parce que je suis quelqu'un de très éclectique et je trouverais dommage de me limiter uniquement à des romans pyrénéens, même si je sais que dans toutes les régions où se trouvent les gens aiment les romans régionaux. Moi, j'aime raconter les histoires d'ici et d'ailleurs. Là, c'est une histoire d'ici et demain, dans le prochain roman que je ferai, ça sera une histoire d'ailleurs.
Justement, qu'est-ce que ça sera alors ?
Alors, le prochain roman, il s'appellera La page impatiente. Il est déjà écrit, bon, il faut que je le retravaille, il faut que je le laisse reposer. En fait, La page impatiente, ce sera l'histoire, ça part d'une histoire vraie, hein, une histoire réelle qui est arrivée à une amie à moi. Et donc, l'histoire de La page impatiente, ça sera l'histoire de Sophie qui, à la mort de son compagnon, donc, décide de remonter l'Adour pour remonter le fleuve de ses amours. Et donc, dans le cadre de cette remontée, elle revient à son premier amour qui est un Anglais. Et là, au moment où elle remonte le fleuve, elle se rend compte qu'il y a un mot qui n'est jamais apparu sur l'écran de leur histoire, qui est un mot en trois lettres, c'est le mot fin, F-I-N. Et elle décide de redescendre le fleuve dans le sens du temps, de retrouver cet homme qu'elle a aimé. Et en fait, il se trouve que cet homme est devenu romancier et qu'il effectue une résidence en France à Sète, donc dans le département de l'Hérault. Il effectue une résidence à Sète, à côté des anciennes salines de Villeroy. Et il écrit un livre sur la lenteur, parce que l'histoire du sel, c'est d'abord et avant tout l'histoire de la lenteur. Et il se trouve que la maison d'édition de cet homme recherche une directrice d'ouvrage française pour travailler avec lui sur son roman, mais il faut quelqu'un de spécifique parce qu'il est devenu aveugle. Donc elle va candidater, elle va être retenue, et au travers de l'histoire sur laquelle elle va travailler avec lui, va se retisser entre eux un lien qui s'est arrêté à un moment donné. Et cette histoire, en fait, en toile de fond, parlera notamment d'un sujet très controversé qui est le sujet des assistants sexuels. Voilà, donc n'ont pas de statut en France, qui ont un statut donc par contre en Angleterre, qui n'ont pas de statut en France. On considère en France que ces gens-là sont assimilés à de la prostitution. Voilà. Ce sont en fait des gens qui sont payés pour donner du plaisir à des personnes qui sont gravement handicapées, qui ont toujours des désirs, comme tout le monde, comme vous, comme moi, mais qui ne peuvent pas les satisfaire. Et il se trouve en fait que cet homme, cet Anglais, écrit un livre donc, qui va parler notamment d'une expression que lui a dit cette femme qui est française, qui parle du sel de la vie. Et c'est pour ça qu'il décide de venir dans les salines, pour parler de cette histoire de la lenteur, parce que l'histoire d'amour, une histoire d'amour, c'est d'abord une histoire de la lenteur. Voilà. Et donc ça s'appellera La page impatiente. Alors pourquoi La page impatiente ? Parce que pour écrire une histoire, on est toujours impatient d'écrire. On ne peut pas l'écrire plus vite que la page ne peut être écrite.